Va charger le bruit, la ville n'est pas loin. Ah, des parfums de vignes et des parfums de bière.
Il faudra le texte de la pièce. Le programme du spectacle.
Radio Sans Fréquence, la radio du Centre culturel Aveyron, Ségalavior.
Proposée par Véronique Juillard. Bonjour Pascal Cazotte.
Bonjour Véronique.
Vous habitez sur la commune de La Capelle-Blaise.
Absolument.
Vous avez déjà publié plusieurs ouvrages aux éditions Les Trois Spirales, La Bête du Gévaudan 2004.
Alors, La Bête du Gévaudan en fait démasquée avec un point d'interrogation, bien que je pense apporter l'identification de cet animal qui est assez vie. Donc, de 1764 jusqu'à 1767, et qui a fait un nombre considérable de victimes, auprès d'une centaine de femmes et d'enfants.
Un autre ouvrage, Sirène et homme marin, publié en 2006, celui-ci ?
Alors, Sirène et homme marin, du mythe à l'évidence scientifique, coécrit avec un scientifique du nom de François Dessart, qui est zoologue et qui est même ichtyologue. Donc spécialiste du monde marin.
Et tout récemment, vous avez écrit un magazine, pour un magazine hors série qui s'appelle...
Alors c'est le magazine Top Secret pour lequel je collabore régulièrement. Et j'ai écrit 3 hors séries pour ce magazine. Donc Les Géants, Les Vampires et L'Histoire Vraie des Loups-Garous.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre motivation pour l'écriture ?
Alors, l'écriture, j'ai commencé à écrire, ça remonte dans les années 90. C'était d'abord pour une association ufologique qui m'avait sollicité pour écrire quelques articles. Donc j'ai fait mes premières armes là-dedans. Et puis après, je me suis pris au goût de l'écriture, que j'ai allié à mes passions qui sont l'histoire, qui sont le paranormal... Et donc j'ai été amené à collaborer de plus en plus pour des magazines et puis à rédiger des ouvrages qui ont été publiés il y a quelques années.
Voyage au cœur de l'insolite, édité aussi...
Aux Trois Spirales, avec Magali, ma sœur.
Vous l'avez écrit ensemble, c'est un recueil de phénomènes fantastiques, on peut le présenter comme ça ?
Oui, mais... ce sont des histoires qui sortent absolument de l'ordinaire. Ce sont des histoires extraordinaires qui touchent au paranormal, à divers sujets. Et donc, suivant nos affinités, j'ai écrit des histoires qui m'intéressaient plus particulièrement, notamment le mystère des Black Dogs et aussi des énigmes concernant l'histoire comme Martin le Visionnaire. Et puis il y a eu aussi cet article que j'ai écrit sur les fantômes de Trianon. C'était 2 Anglaises, Miss Jourdain et Miss Moberly, qui ont été témoins d'apparitions tout à fait extraordinaires dans le parc du château de Versailles. Ils ont plongé dans le château à l'époque de la Révolution à peu près. On a des témoignages absolument sans contestation possible. Et c'est au fil de nos lectures, de nos passions, qu'on a découvert donc ces histoires qui sont tout simplement fabuleuses, mais absolument véridiques.
Vous avez écrit ce livre avec votre sœur, qui est aussi elle-même écrivain.
Oui, absolument.
Votre maman aussi.
Oui, en effet.
Pas dans le même domaine.
Pas du tout dans le même domaine, puisqu'elle se contente d'écrire dans le régionalisme, on va dire. Et ma sœur, par contre, on partage des passions communes et elle aussi est passionnée par le paranormal, tout ce qui est phénomènes extraordinaires, etc. Après avoir étudié tous les phénomènes un peu mystérieux, et après, on est passé au catharisme, on est passé à la gnose, on est passé à la chimie, et puis voilà quoi. Mais moi, par contre, à la différence de ma sœur, j'ai toujours un côté historique qui ressort, l'histoire étant ma première passion.
Effectivement, par ailleurs, vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire napoléonienne
oui,
le Premier Empire.
Oui.
Voilà. D'ailleurs, la Société napoléonienne internationale vous a décoré en 2011.
Oui, j'ai reçu deux décorations. La première, c'était la médaille d'honneur des compagnons de la Société napoléonienne internationale. Et la deuxième récompense que j'ai eue, c'était effectivement la Légion du Mérite pour mes travaux sur Napoléon et le Premier Empire. Et la dernière médaille, je l'ai eue en 2008. Oui, c'est ça.
Vous avez écrit sur les héros de la Grande Armée.
Notamment, et sur des batailles napoléoniennes aussi, et sur Napoléon lui-même, naturellement. Napoléon, qui est un personnage malheureusement qui reste par trop inconnu, même aujourd'hui, et ou alors dont l'histoire a été, on va dire, détournée, puisqu'on le présente très souvent comme un dictateur semblable à Hitler. Ça n'avait absolument rien à voir, c'était tout le contraire. Et c'était un homme qui n'était pas du tout raciste, qui également était connu pour ses gestes de grande générosité et bien sûr pour son génie. C'est à lui que nous devons toutes les grandes institutions que nous avons aujourd'hui en France, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit le Conseil constitutionnel, même au niveau de l'organisation de l'éducation, l'université, les lycées. C'est à lui que nous devons tout ça. Ma passion pour Napoléon remonte à ma tendre enfance, depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Et Napoléon, il y a quelques années, j'ai eu envie d'écrire sur lui pour rétablir surtout des vérités, parce que malheureusement, on dit bien trop de bêtises sur son compte, et donc pour réhabiliter la mémoire de ce grand personnage. Et surtout, j'ai participé, on va dire, au combat d'autres historiens napoléoniens qui ont travaillé sur ce sujet avant moi, c'est-à-dire sur le fait que Napoléon n'est pas mort d'un cancer de l'estomac, comme on veut nous le faire croire, mais a bel et bien été empoisonné à Sainte-Hélène.
Est-ce que vous donnez des conférences?
Alors, ça m'est arrivé d'en donner, et ça fait longtemps hein, par contre, hein, mais j'en ai donné quelques-unes, notamment dans la région, mais sur des sujets, on va dire, locaux. Et notamment sur la tradition hermétique et ses symboles en carciroerque, c'est-à-dire en langage plus clair sur l'alchimie et tous les symboles qu'on peut retrouver dans la pierre ou dans les peintures que nous pouvons découvrir dans notre belle région. Pour citer un exemple, nous avons bien sûr la chartreuse Saint-Sauveur qui à Villefranche-de-Rouergue qui est extraordinaire à ce niveau-là. Nous avons aussi Figeac qui est une ville sublime. Au niveau alchimie et corde sur ciel, bien sûr, enfin, autant de cités qui ne demandent qu'à être découvertes et à délivrer leurs messages qui sont restés cachés jusqu'à aujourd'hui, on peut dire, pour la plupart d'entre eux.
Pascal Cazotte, est-ce que vous avez un nouveau livre en cours?
Et non, parce que les livres, je n'en écris plus, je n'écris plus que des articles maintenant pour des magazines et voilà.
Si on veut trouver vos ouvrages, et on s'adresse où?
Aucun problème. Il suffit d'aller voir son libraire pour qu'il les commande ou les commander après sur des sites internet comme Amazon, la Fnac. On les trouve sans aucune difficulté.
Pascal, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de vos ouvrages?
On va parler naturellement encore une fois du Premier Empire. Alors Drou, qui était un artilleur hors pair et un personnage tout à fait extraordinaire, après avoir décidé de suivre les cours de l'école d'artillerie de Châlons, et bien sûr il y avait un examen d'entrée qui était très dur à passer, et déjà lui qui n'habitait pas à côté devait se rendre à pied pour cet examen. Et ce qui a fait d'ailleurs qu'il est arrivé avec un certain retard, mais je vous lis donc l'extrait en question.
Et oui, il était issu d'une famille très modeste.
Alors, très modeste, oui, puisque son père, il était boulanger et père d'une très nombreuse famille. Et il devait travailler très très dur pour pouvoir payer des études, notamment à Drou, à son fils. Alors, j'en arrive maintenant à la lecture de l'extrait en question, au moment donc où Drou entreprend son voyage pour Châlons. Alors, Châlons se trouve à bonne distance de Nancy, ses parents ne peuvent lui offrir le voyage en diligence. Antoine n'a pas le choix, c'est à pied qu'il se rendra à Châlons. Après plusieurs jours de marche, il arrive bon dernier dans la salle d'examen, ce qui fait que tous les regards se tournent vers lui. À son allure de paysan pauvre, qui plus est couvert de poussière, les 200 autres concurrents, tous richement habillés, ont d'abord une réaction de stupeur, puis se moquent ouvertement de ce phénomène. Monsieur de la place, l'examinateur en chef, aussi surpris que les candidats, demande au jeune Drouot s'il ne s'est pas trompé d'endroit. Finalement, l'examen commence. En entendant les questions posées à ceux qui le précèdent, Drouot, auparavant intimidé, prend de l'assurance en s'apercevant qu'il connaît toutes les réponses. Vient enfin son tour. Monsieur de la place envoie sa salve de questions à Drouot, pensant, avec a priori, que le personnage dégunillé qu'il a devant lui sera bien incapable de répondre à la moindre interrogation. Quelle n'est pas sa surprise en écoutant les réponses justes sortir de la bouche d'Antoine. Elles sont en plus accompagnées d'un raisonnement infaillible qui ne tarde pas à impressionner l'examinateur. Se prenant au jeu, de la place sort du programme établi pour évoquer avec Drouot des questions d'un niveau si élevé que l'assistance ne tarde pas à perdre pied. Mais là encore, le jeune nancyien éblouit l'examinateur par l'étendue de ses connaissances et son jugement sûr. Arrive enfin le moment où de la place met un terme à l'examen. Il félicite chaudement Drouot et va même jusqu'à l'embrasser. Dans la salle, c'est le délire. Tous les autres élèves sont debout et acclament Antoine dans un tonnerre d'applaudissements. Oubliez le miséreux, on ne voit plus en lui qu'un esprit supérieur à celui des autres hommes. Drouot est reçu premier de sa promotion et porté en triomphe dans les rues de Châlons.
Nous terminons par cette lecture. Au revoir.
Merci de m'avoir reçu et j'envoie mon bonjour à tous les auditeurs.
Merci. C'était Livrez-vous avec Pascal Cazotte, une émission proposée par Véronique Villard. Et vous, une émission proposée par Véronique Vuillard. Bonjour Alexandre Létal.
Bonjour.
Vous habitez sur la commune de La Capelle-Blaise.
Tout à fait, oui.
Vous êtes écrivain et vous avez déjà publié 4 livres.
Bien, ces 4 livres, qui en fait n'en font qu'un divisé en 4 tomes, s'inscrivent dans une série de livres que j'ai intitulé « Chroniques d'Athéline ». Et donc le premier livre s'appelle « Étal Conteil, Odyssée des temps diluviens ». Donc, en 4 tomes.
Les chroniques d'Athelin, Athelin, c'est quoi en fait ?
C'est une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, mais attention, ce n'est ni la Terre dans le passé, ni la Terre dans l'avenir, ni même dans le présent. C'est dans un autre univers.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des livres fantastiques ?
C'est pas un mot que j'apprécie beaucoup, parce que fantastique, pour moi, chacun a bien sûr sa version de la chose, mais pour moi, le fantastique, il faut qu'il y ait de la magie, des dragons, des elfes, des choses comme ça, des trucs un peu pas possibles, justement. Dans mes livres, même si ça se passe dans un autre univers, j'essaie quand même, comme j'étudie un peu l'âme humaine, les rapports sociaux, les rapports de domination ou les rapports à la différence, je reste quand même dans un certain réalisme. Je préfère parler de science-fiction parce que ça se passe dans un univers où la technologie est quand même assez avancée, bien plus avancée qu'à notre époque. Et donc, à partir du moment où il y a des voyages dans l'espace et des vaisseaux spatiaux, je pense que c'est le terme le plus adéquat.
Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans cette écriture ?
Ça, c'est quelque chose, c'est en fait l'histoire d'une vie. En grossissant un peu le trait, je dirais que, à la limite, je suis né pour faire ça. J'ai commencé très tôt, puisqu'en fait, dès que j'ai su lire et écrire, j'ai commencé à dévorer tous les livres qui me tombaient sous les yeux. Je sais pas, à 10 ans, j'ai commencé à déjà inventer des histoires. Au collège, j'avais même écrit une pièce de théâtre qui a été jouée un petit moment, enfin, en tout cas, à la fin de la saison, par ma classe des 5e. À 15 ans, bon, ben, ma mère qui s'agaçait un peu de me voir en permanence plonger plutôt dans mes livres que dans les études, a détruit tout ce que j'avais fait antérieurement. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis reparti de zéro. Le livre que je viens de sortir il y a peu, en fait, est le résultat de toute une vie. Mais il a fallu d'abord que je travaille, et donc j'ai été marin pendant 15 ans, et c'est pas vraiment un milieu propice à l'écriture. Ensuite, je suis venu me réinstaller dans l'Aveyron, puisque je suis aveyronnais d'origine, bien que je ne sois pas du Ségala. Il a fallu que je rénove une maison, et comme j'ai vécu dans des conditions assez précaires pendant quelques années, c'était pas non plus très, très favorable à l'écriture. Donc en fait, je n'ai pu m'y remettre que depuis fort peu de temps.
Vos livres, ils sont sortis en quelle année, là ?
Alors, le premier tome est sorti en février 2013. Et depuis, les sorties se succèdent à peu près semestriellement.
Dans vos livres, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vécues dans ce que vous racontez ?
C'est pas du tout biographique. Par contre, c'est un peu la résultante de toutes mes expériences.
Ces quatre ouvrages vous ont demandé un gros travail de préparation ?
J'invente des concepts, je fais des plans d'architecture, des plans de vaisseaux spatiaux, et tout cela, évidemment, c'est l'univers dans lequel se déroule le livre. Quant au livre proprement dit, bon, j'estime le temps pour écrire un livre complet, hein, donc c'est-à-dire les quatre tomes, hein, je l'estime à peu près à 3 ans. Je suis en train de finir d'écrire le second, et c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu. Par contre, le premier livre m'a pris du temps, alors pas de travail, hélas, mais du temps pour le publier, parce que je l'ai commencé en 94. Le travail était très, très fractionné, et au final, je ne suis arrivé qu'à un résultat publiable en 2013. Le second livre, là par contre, on ne m'aura pris que 3 ans, et il est en cours de finition.
Il va bientôt être publié.
Au mois de juin, en principe.
Toujours sur le même thème ?
C'est différent, dans la mesure où le premier livre démarre dans un monde... Ce sont des visiteurs qui viennent d'un univers évolué et qui arrivent dans un monde qui est un peu, pour comparer le développement, au niveau un peu médiéval. Le second livre, lui, se passe vraiment dans le monde proprement dit, donc très évolué technologiquement. Il est plus politique, alors que le premier, c'est un voyage, le second est politique. Il traite des conséquences des événements du premier livre, mais chaque livre peut être lu distinctement. On n'est pas obligé de prendre le premier livre, de faire toute la série.
Ce deuxième livre va sortir prochainement, avant la fin de l'année ?
Ben, juin, en principe.
Juin ?
Le premier tome, mais bon, comme c'est en cours de finition, il faut encore réaliser la couverture et tout et tout. Donc.
Quand vous publiez vos livres, vous faites des séances de dédicaces, vous faites des librairies
Alors, je suis membre de l'Amicale des écrivains régionaux. Donc Midi-Pyrénées, qui est basé à Aulnay-le-Château. J'effectue des séances de dédicaces, je suis dans différents salons. Dernièrement, j'étais à Aulnay-le-Château pour une séance. Je serai au salon de la Fouillade, j'étais au salon de Figeac au mois d'octobre. Sinon, les livres, évidemment, se trouvent dans quelques librairies. Ils peuvent être commandés dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et ils se trouvent aussi en vente sur Internet.
On peut donc trouver vos livres à Rieux-Pérou, je suppose ?
Non, je n'ai pas mis un dépôt à Rieux-Pérou, mais par contre, ils sont au Leclerc de Villefranche, chez Barthes, toujours à Villefranche, La Folle Avoine.
Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, avant de nous quitter, vous pourriez nous lire un extrait d'un de vos livres ?
Oui. Alors, je pense que je peux me contenter de lire tout simplement la première page. Ça sera aussi bien.
Alors, allez-y, on vous écoute.
D'accord. Donc... Depuis le crépuscule, poussé par un fort vent d'ouest, de lourds nuages ont peu à peu occulté le ciel et noyé la haute chaîne de montagnes dans l'étreinte des ténèbres. L'astre d'argent qui éclaire habituellement les nuits de cette planète ne se voit plus, mais il signale sa présence par l'intermédiaire d'une aura de lumière blanche, d'intensité variable, projetée sur les nuages fuyants et qui surligne leur découpe tourmentée et filochée de franges plus vives. Cette clarté illumine le paysage d'une pauvre lueur blafarde. Dans l'immense forêt de sapins qui occupe les combles et les épaulements arrondis, ne s'entend plus que le bruissement des branches qui s'entrechoquent, frottant leurs aiguilles, confrontant leurs rugueuses écorces. La température reste douce. L'inclinaison de cette planète par rapport au plan de son orbite lui autorise des saisons bien marquées. Et, en ce moment, dans cet hémisphère, commence l'été.
Alexandre Guillet-Létal, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup et à bientôt.
Ce fut un plaisir.
C'était Livrez-vous, une émission proposée par Véronique Juillard. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct sur Radio Sans Fréquence. À mes côtés, il y a Bertrand du Centre Culturel et puis Pascal Cazotte et Alexandre Guillet-Létal dont vous venez d'entendre les reportages que j'ai effectués à leur côté.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir ici à la Capelle Blaise, dans le studio de Radio Sans Fréquence. Et en fait, on voulait surtout savoir pourquoi venir en Aveyron, pour écrire bien sûr, mais vous avez des racines ici, vous, Pascal ?
Ah, moi, absolument, oui. Et je pense d'ailleurs que Alexandre, c'est pareil. Mes racines, elles sont des deux côtés de la famille, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Côté maternel, ma famille est originaire de Villefranche, notamment. Et du côté de mon père, c'était plutôt des origines aux environs de Salcuran. Plutôt vers les Vizou, là-bas. Voilà.
Et vous, Alexandre ?
À moi, ce sont des origines mi-avoises par ma mère. Je suis au Cossonard, comme on dit. Voilà, toute ma famille était gantière à Millau, enfin ouvrier gantier. Mmh. Voilà, et puis des bergers sur l'Écosse.
D'accord. Et vous êtes là depuis combien d'années maintenant ?
Une quinzaine d'années.
Et vous aussi, Pascal ?
Moi, un peu plus longtemps. Donc ça va faire 27 ans maintenant que je suis installé en Aveyron.
Et votre parcours professionnel, en fait, bon, il y a l'écriture, mais vous faisiez autre chose avant.
Oui, j'étais clerc de notaire pendant 25 ans.
Ah, en effet.
Et puis, là, j'ai arrêté parce que c'était un travail beaucoup trop prenant, où je n'avais pas de vacances, du moins pas les vacances que je souhaitais, pas de vacances l'été, puis je travaillais très très dur.
Ce qu'on appelle le burn-out.
Oui, tout à fait.
Et il y a combien de temps que vous avez arrêté, là, maintenant, alors ?
Ah, ça va faire pas tout à fait un an, j'ai arrêté, mais oui, presque.
Et vous, Alexandre ?
Ah, moi, j'ai été marraine dans la Marine nationale. J'ai fait toute la carrière quasiment à Toulon, avec des affectations à l'étranger, à Djibouti, en Afrique. J'ai fait la guerre du Golfe, le Liban.
Et vous reveniez régulièrement en Aveyron ou vous étiez parti souvent en mission, je suppose, non ?
Oui, oh, ben là... Quand j'étais dans la marine, j'étais tout le temps ailleurs et je ne passais pas un mois en France tous les ans. Donc comme j'étais à Toulon, je restais surtout par là-bas, ce que je regrettais beaucoup. Enfin, cela dit, j'ai quand même passé mon enfance, parce que mon père étant receveur des postes, il était affecté dans le Languedoc, dans la région de Béziers, et j'ai surtout passé mon enfance, disons, entre 10 et 15 ans, dans la région de Béziers. J'ai fait mes études à Montpellier. Et mes parents se sont retirés dans la banlieue de Montpellier. Donc, souvent, quand j'étais dans la marine et que je devais me rendre quelque part, je rentrais plutôt chez mes parents.
Donc, la Capelle Blaise a bien de la chance d'avoir deux écrivains.
Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on habite tous les trois à Montloubé. Il y a un petit hameau qui fait partie de la Capelle. Et il y a 50 habitants, je ne sais pas exactement.
Peut-être moins.
Et du coup, tous les deux, vous avez fait connaître... Enfin, je ne sais pas pourquoi vous êtes arrivés à Montloubé précisément, mais en plus, vous vous fréquentez. Du coup, c'est l'écriture qui vous a fait vous rencontrer ou les promenades
De toute façon, pourquoi je suis arrivé à Montloubé, c'est le pur hasard, hein, de toute façon. Et ensuite, j'ai connu Philippe en tant que voisin, bien sûr, et on a été amenés d'abord à lutter ensemble au sein d'une association. C'est ça qui nous a rapprochés. Et puis voilà.
Oui, mais moi, c'est pareil. J'ai atterri à Montloubé par hasard. Je recherchais une maison à retaper pour habiter.
Vous avez peut-être appelé Pascal pour rechercher une maison.
Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais
c'est... Mais c'est pas,
je ne connaissais pas. Il était dans l'immobilier.
Mais c'est vrai qu'on aurait pu se rencontrer, mais bon. Voilà, et c'est vrai que nous nous sommes retrouvés dans la même association.
Et après, l'histoire a continué.
Bien, oui, on se promène ensemble.
C'est-à-dire qu'on aime tous les deux la marche à pied. Donc,
C'est un bon moyen pour se...
Et, oui. Pardon. Et tous les deux l'écriture. Donc,
et tous les deux l'écriture. Voilà. Donc en fait, la marche à pied permet d'explorer un peu les pensées de chacun. Bah, oui, je ne sais pas si vous servez des uns et des autres, de l'un et de l'autre pour vos pensées.
Je vais vous dire quelque chose. Vous aviez le philosophe Aristote qui disait que le meilleur moyen de discuter, c'était en marchant.
C'était en marchant.
Voilà, donc...
Oui, et c'est vrai que ça marche bien, et puis même, ça permet aussi de réfléchir. Bon, là, il faut mieux être seul, mais moi, je sais que ma créativité, j'invente mes histoires, non pas devant mon ordinateur, enfermé chez moi, mais quand je marche, je sors, et c'est là que tout s'élabore petit à petit.
Et vous avez des choses que Pascal vous dit qui vous inspirent, ou ça n'a absolument rien à voir ? Non, parce que vous, c'est tout l'histoire, donc...
Ah oui, moi je suis un passionné d'histoire, donc, et lui dans un univers complètement différent, donc oui.
Voilà, oui. Et d'ailleurs, je préfère éviter de faire trop de parallèles, pour éviter, bon, d'une part, le plagiat. Mais ça, il y a peu de risques. Mais par contre, il ne faut pas non plus que je fasse trop un papier-collé de la réalité. J'étudie un peu l'âme humaine dans mes livres, mais le contexte doit toujours être fictif.
D'accord. Et vous, Pascal, en fait, vous me disiez tout à l'heure que maintenant, vous écrivez plutôt dans des magazines, des articles dans des
magazines. Oui, je travaille pour plusieurs magazines, en fait.
Quels sont ces magazines ?
Par exemple, il y a Les Mystères du Moyen-Âge. Le dernier numéro, d'ailleurs, a édité un article que j'ai écrit sur le village de Najac, un article d'une vingtaine de pages. Donc, j'écris des articles de fond, bien sûr. J'écris aussi pour quantité de magazines, aussi bien les archives de la Deuxième Guerre mondiale, également Les Secrets de la Loge, le magazine Top Secret. Enfin, j'ai tellement de passions, tellement de spécialités, on va dire, que je suis amené à collaborer avec beaucoup de revues, oui.
Vous n'avez pas de regret d'avoir quitté le notariat, alors, je pense.
Aucun regret, non.
Et vous, Alexandre Lamarine, non plus?
Oh, non, pas du tout.
Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour d'être venu nous voir ici à la Capelle Blaise, au studio. Et puis,
merci pour votre accueil.
Merci à vous et
merci à
bonne
Véronique.
Continuation.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.